1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2. Ouais. Alors, c'est ça, comme je le disais tantôt, hein, on a comme un peu du rattrapage à faire parce que, ben, vous allez voir, c'est vraiment pas, c'est pas comme si tout le monde va être perdu, là, parce que quand même assez de base, puis. Mais c'est ça, c'est parce qu'on a fait une bonne pause sur notre série sur la vie victorieuse en Jésus, puis faut au moins un mois et demi, je dirais, peut-être 2 mois, qu'on n'a pas regardé ces choses-là ensemble. Donc, le début du message va nous remettre un peu dans le bain pour tout ça, puis dans le fond, on va voir la suite. On parlait de forteresse, puis tout ça, la dernière fois qu'on était dans cette série-là, fait qu'on va reprendre la balle au bon, et on va regarder ça ensemble. Là, on va juste lire les 2 premiers versets de 1 Pierre 2. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Vous savez, il y a une grande différence entre la liberté et la maturité. Lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, on ne s'attend pas à ce qu'une personne automatiquement soit mature, n'est-ce pas? Il vient de naître, c'est un petit bébé dans le Seigneur. Ben, ici aussi, dans 1 Pierre, ça parle de désirer le lait comme des enfants nouveau-nés. Et ça, c'est de façon positive. Ça ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui est immature, comme mettons dans Hébreux 5, où est-ce que ça dit on aurait des choses plus difficiles à vous dire, la nourriture solide, mais vous êtes encore au lait. Ici, ça parle du désir d'un enfant nouveau-né. Fait que ça, il y a quelque chose de bon là-dedans. Dans quelqu'un qui vient d'être sauvé, il est tout feu, tout flamme, il est tout content d'avoir découvert la vie qui est en Jésus et tout ça. Et bon, mais on s'attend pas, tu sais, fait qu'on peut dire, ah, waouh, c'est un nouveau sauvé, tu sais, mais on s'attend pas seulement qu'il soit mature, qu'il ait la connaissance de la parole très élaborée et tout ça. Pourquoi? Parce que, ben, il vient juste de connaître le Seigneur. Mais si, par contre, un enfant, voire un adulte, continue à agir comme s'il était au lait pendant des longues années, comme un petit bébé, ben là, il y a un sérieux problème qui peut s'expliquer de la manière suivante. Là, on parle au niveau spirituel. Vous savez que n'importe quel chrétien peut devenir un vieux chrétien. Ça prend juste des années. Ça prend du temps. À un moment donné, ça fait 38 ans que tu es sauvé. Ben, hey, là, excuse-moi. Des fois, je dis des affaires, puis j'y pense. Une chance que c'est toi, Linda. Une chance que c'est toi, parce que sinon, je pense que j'aurais pas osé le dire. Hey, plus je dis ça à une femme, même, je suis pas gêné, là. C'est le temps des tomates, vous pourriez m'en tirer. J'espère que personne n'a des tomates dans ses poches, en tout cas. Ah oui, il y a du bédin. Au moins, cuit, c'est un peu plus mou. Ah, il est prêt, lui. Et donc, OK. Tous les chrétiens peuvent devenir des vieux chrétiens avec les années, mais c'est pas tous les chrétiens qui sont des chrétiens matures. Ça, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que trop souvent, on peut être bloqué par des forteresses qui nous rendent esclaves. Donc, chrétiens, oui. Qui peut être depuis des années chrétiens, oui, mais pas mature parce qu'il n'est pas libre. Et donc, cette absence, cette carence de liberté spirituelle qui vient par l'esclavage des forteresses, les empêche de grandir et de devenir tout ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Tu sais, c'est pas parce que Dieu a pas des choses là pour cet enfant de Dieu-là, c'est juste qu'ils n'ont pas accès de par leur propre carence, esclavage qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Et le fond du problème ici, c'est que ils ne sont pas encore assez renouvelés dans leur intelligence par rapport à qui ils sont en Christ. Combien de gens vont dire, ben moi, j'ai tout le temps été de même. Moi, j'ai été élevé de même, puis c'est comme ça que je suis. Moi, j'ai de la misère avec ça. Puis, comprenez-vous, ils s'identifient à ce qui a toujours été un problème pour eux autres, leur forteresse. Singulier, pluriel, la plupart du temps, c'est pluriel. Et c'est ça leur identité. Et donc, le problème, c'est pas qui connaissent pas, bon, ils peuvent ne pas connaître très bien la parole de Dieu, mais pas connaître aussi ce qu'ils sont en Jésus-Christ, ce que Dieu a fait d'eux par l'union à la mort, la résurrection, l'ascension et l'intercession de Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, on est mort au péché, vivant pour Dieu, on est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en position d'autorité sur toutes les dominations, les autorités, puis Christ est là, il intercède lui-même pour nous, et par son esprit, il intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est un package deal. C'est-à-dire, on a tout pleinement, tout ce qu'on a besoin. Mais si on ne vit pas à la lumière de ça, on bloque. Et lorsqu'on est ainsi bloqué par l'esclavage des différentes forteresses qui peuvent s'ériger dans notre vie, dans nos cœurs, on perd la liberté d'aimer. On perd la liberté d'avoir la joie, la paix, malgré les circonstances, les personnes. Et on devient esclave des choses qui nous arrivent, des personnes qu'on croise. Et on n'expérimente pas la puissance de la libération de la vie de Christ. Vous savez, un beau verset dans Romains 5, 10 qui dit « À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » La vie de Christ nous libère de nous-mêmes. Nous, on a tendance à aller par défaut à ce qui nous rend esclaves. Mais la vie de Christ en nous, elle nous sauve, elle nous délivre de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Et Jésus, quand il dit qu'il est venu donner la vie abondante, il n'était pas le premier prédicateur de la prospérité comme on voit de nos jours. Il nous parlait de cette vie de liberté, de délivrance, de l'esclavage, de la défaite, de la vanité, de l'insatisfaction. Donc, pour remédier à ce problème, qui est très répandu, je veux dire, c'est un fléau dans le monde chrétien, dans l'Église de Jésus-Christ, et c'est très destructeur dans toutes les sphères de notre vie. Puis on a déjà quand même considéré pas mal de choses à cette lumière, à la lumière de ça, mais on va revenir sur les deux questions fondamentales par rapport aux forteresses, puis ensuite on va aller avec le point principal du message. Mais d'abord, pour revenir un peu en arrière, on avait vu dans le dernier message, c'est quoi une forteresse? Depuis tantôt, je parle d'être esclave, puis être une forteresse. Écoutez bien, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le passage. Je vous lis dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. « Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dans le dernier message, à la lumière de ce passage-là et d'autres, voici la définition fonctionnelle d'une forteresse qu'on a donnée. Je vous en donne la même, mais dit de deux façons différentes. D'abord, une forteresse est une fausse croyance qui est renforcée sur une longue période de temps et qui nous empêche ou qui entrave notre connaissance de Dieu, qui nous empêche de connaître Dieu, ses pensées et ses voix. C'est un château fort dans notre pensée. Je le dis autrement, une forteresse, c'est une croyance incrustée qui n'est pas en harmonie ou en accord avec ce que Dieu dit être la vérité. « Ah, je suis un pourri, je suis bon à rien. » Non, tu es une nouvelle créature, tu es aimé de Dieu, puis Dieu, il peut faire de quoi avec toi, puis à cause qu'il t'aime, il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Il ne t'aurait pas sauvé, sinon il t'a sauvé pour des œuvres préparées d'avance. OK? Ça, c'est juste un petit exemple de même en passant. Maintenant, une autre question qu'on s'est posée dans le dernier message et que je réitère pour se rafraîchir un peu la mémoire. Bon, qu'est-ce qu'une forteresse? C'est une première question. Mais la deuxième, comment est-ce qu'une forteresse est formée? Comment ça se forme dans nos vies? Bien, dans le verset, ça nous parle de raisonnement et d'auteur. Raisonnement, c'est nos pensées. Auteur, c'est l'idée de l'orgueil, ce qui s'élève, ce qui s'érige en autorité contre. Donc, on peut dire que c'est des raisonnements, ou si vous voulez, la réponse de notre chair, de notre moi-même, là. OK? Pas la réponse de la foi, pas la réponse de la confiance en Dieu. Et la réponse à quoi? À notre environnement, à nos expériences traumatisantes qu'on a pu avoir dans le passé, à nos chutes face à la tentation. OK, comment je réponds à ces choses-là? C'est comme ça que va se former la forteresse. Je m'habitue, il m'est arrivé des choses dans le passé, mais on arrive dans le présent. OK? J'ai mon environnement, les personnes avec qui j'interagis, puis tout ça, mes circonstances. Bien, la manière que je vais répondre à ça, si je ne réponds pas bibliquement, si je ne réponds pas selon la vérité qui est en Dieu, ben je vais me créer une forteresse. Là, je vais vous expliquer un petit peu. Pour le dire autrement, une forteresse, c'est agir selon le mensonge. Tout le monde connaît, vous connaissez, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, mais si on inverse ça, si on croit au mensonge, le mensonge va nous rendre esclaves. C'est l'autre côté de la médaille. Donc, une forteresse, c'est agir selon le mensonge. Une fausse information qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pas la vérité. C'est pas conforme à Dieu et à sa parole. Et écoutez bien. Qui nous pousse à agir selon nos émotions. Comment on se ressent. Puis là, ben, qui nous amène à penser puis agir de façon contraire à la parole de Dieu. Je répète, parce que j'ai un petit peu massacré, là. Une forteresse, c'est agir selon le mensonge, c'est-à-dire une fausse information qui n'est pas conforme à Dieu et à sa parole, et qui nous pousse à agir selon nos émotions, en nous faisant penser et agir de manière contraire à la réalité. Et là, je vais vous donner un exemple, vous allez voir, ça va être plus facile à comprendre. Par exemple, je peux me sentir rejeté. Mais savez-vous quoi? Probablement aussi que j'ai été rejeté, je suis rejeté. C'est pas mon imagination, c'est pas moi qui se compte des peurs, c'est la réalité. Mais, je peux transposer ça à dire, ben même Dieu me rejette. Je me sens rejeté par Dieu. À cause du rejet que je vis dans ma vie, ben, je me dis, c'est comme ça que Dieu me traite. Ça résume, à cause que je vis ça, donc ça veut dire que c'est ça qui est entre moi et Dieu. Ah, ça c'est une forteresse parce que c'est pas vrai. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Il n'y a pas personne qui peut les ravir de ma main. Je veux dire, la relation entre un enfant de Dieu et son Dieu est indissociable. Ouais, écoutez aussi Ésaïe 40:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Un autre exemple à lequel on pourrait penser, on peut se sentir incapable de changer. Ah, je ne serais jamais capable, c'est ben trop dur. Alors que qu'est-ce que nous dit la Bible? Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je ne me sens pas capable, effectivement, mais ça finit pas là. Il nous a aussi rendus capables. Ça, c'est la vérité. C'est ce que la Bible dit qui est vrai. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et si j'ai la vie de Christ, je suis capable, pas moi, mais Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Un autre exemple, ça l'aide à tout mettre ça ensemble, mais peut-être que je me sens comme dans Romains 7. Je fais le mal que je veux pas, puis je fais pas le bien que je voudrais faire. N'est-ce pas que c'est une expérience par laquelle nous sommes tous passés? Alors que la Bible dit, puis ça, OK, ça peut être une réalité encore là dans ma vie. Voyons, j'essaie, mais là, je me sens que pour moi, là, ben c'est le même que je suis. J'ai tout le temps été le même, ça ne va pas changer, comprenez-vous? À cause que je me sens de même, je me sens pas victorieux, puis je sens pas que les promesses de Dieu sont vraies, alors que la promesse de Dieu, c'est, dans 1 Pierre, ça dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, là, ça fait le tour de toutes nos vies, dans tous ses aspects. Donc, à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Moi, vous voyez le topo un peu entre ce qu'on ressent, ce qu'on a fini par penser dans nos raisonnements versus la réalité de la parole. C'est ça le problème des forteresses. Ça nous amène à la troisième question, et c'est le corps du message. Mais on a à peu près rendu à moitié, là. Faites-vous-en pas. Trois ans, c'est à peu près ça, là, pour de vrai, là. On devrait finir à peu près trois ans. On vient de lire 1 Pierre, au chapitre 1, versets 3 à 4. Et ça va être ça qu'on va prendre pour répondre à la troisième question. OK, on sait c'est quoi une forteresse, on sait comment elle est formée. La question la plus importante, on l'a vu dans 2 Corinthiens, comment qu'on renverse des forteresses? Parce que c'est bien beau savoir tout comment, puis savoir comment que c'est formé, puis c'est quoi le problème, mais comment on a la victoire? N'est-ce pas que c'est ça, notre série, c'est la victoire qui est en Jésus-Christ? Alors, voici, là on va y aller, j'ai différents sous-points, là, mais comment renverser des forteresses? D'abord, il faut fermer les portes que nous avons ouvertes à l'ennemi. Rappelez-vous, on l'a vu déjà, mais ça dit, si vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès, ne donnez pas du, littéralement dans l'expression, il y a le mot topo, comme toponomie, ne donnez pas du terrain à l'ennemi. OK? Quand je me mets en colère et que je laisse le soleil se coucher sur ma colère, je viens de donner du terrain à l'ennemi. Même principe s'applique avec le pardon, parce que ça dit dans Corinthiens, où est-ce que Paul a pardonné les Corinthiens, puis il dit, j'ai pardonné devant Dieu en Jésus-Christ. Puis, suite après, il dit, parce que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, parce que quand on ne pardonne pas, encore là, on donne accès. Puis là, on pourrait prendre toutes sortes d'autres choses. Là. L'inquiétude, la convoitise, OK? Là, il y a deux exemples bibliques clairs avec des versets, mais c'est des portes qu'on ouvre à l'ennemi qui lui donne du terrain. Puis là, je vais vous donner des exemples, parce que, bon, j'ai donné deux exemples bibliques, mais si les gens ont été dans le culte, puis que d'une façon ou de l'autre, il y a des restants qui peuvent avoir des choses, puis que le Seigneur met le bobo dessus, faites comme les Éphésiens, brûlez tout ça. Puis là, de façon littérale ou imagée, là, débarrassez-vous de ça. Nouvel âge inclus et tout ça. L'absence de pardon, on a parlé. La rébellion. Tu sais, la résistance, là, de dire, on parlait de contrôle, là. Non, Seigneur, je rends les armes. L'orgueil, hein, penser qu'on va s'en sortir nous-mêmes, puis qu'on est capable, puis on a toujours été capable, puis, des fois, c'est dur à briser, ça, une volonté de faire. On a parlé aussi ce matin du cycle incessant de péché, confession, remords, péché, confession. Mais toujours sans victoire. Bon, tous les péchés d'ordre sexuel et tous les péchés aussi d'ordre générationnel. Là, ça fait pas, c'est pas exhaustif, mais ça, c'est toutes des manières par lesquelles on peut ouvrir la porte ou, si vous voulez, donner accès à Satan, lui donner du terrain. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est de nous engager devant Dieu à accepter la vérité et marcher dans cette vérité. Et on n'a pas à avoir peur. Souvent, on a peur d'être vrai parce que on n'est pas sécure dans l'amour de Dieu. Si Dieu nous aime, si il nous aime d'un amour éternel, puis à cause de ça, il nous conserve sa bonté, pourquoi qu'on aurait peur? Souvent, on a peur parce qu'on s'imagine quelque chose de Dieu. On pense que les choses vont être d'une manière ou de l'autre, alors que non, Dieu nous aime, puis à cause de ça, on peut être vrai, puis on peut amener ces choses dans les lumières. Donc, je pense un peu dans le même sens. Des fois, peut-être qu'on ne sait même pas. Mettons, on parlait de péché, d'idole subtile. Mais on peut dire, sonde-moi, Dieu, il connaît tout mon cœur. Tiens, montre-moi si... Puis ça dit ailleurs aussi, montre-moi s'il y a des voies détournées en moi. Demandez à Dieu de nous révéler les portes, les accès qu'on a pu donner, céder à Satan, soit dans le passé, soit dans le présent, et simplement de s'en repentir, d'y renoncer sous l'autorité de Christ et par son autorité. Et là-dessus, je vous laisse un verset dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, la victoire est possible, pas par nous, mais par celui qui est en nous. Et donc, lorsqu'on s'est soumis comme ça à Dieu, dans l'humilité, là, on va être capable de résister à l'ennemi. Parce que pensez pas que si on amène ça dans les mains de Dieu, ah, le Satan va dire, ben là, je peux plus l'attaquer, je vais arrêter, ok, je m'en vais dans mon coin. Non, c'est un lion rugissant, mais on va pouvoir lui résister avec une foi ferme. Comme ça dit dans 1 Pierre 5, 9. Et il va fuir. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il faut d'abord se soumettre à Dieu, parce qu'on n'est pas capable de résister au diable par nous-mêmes. Une fois qu'on se soumet à Dieu, on va être capable d'y résister, puis là, il va fuir. Puis juste une petite parenthèse. On n'est pas ici dans la psychologie de dire, essayer de déterrer le passé, puis trouver les bébites, puis ça. Non, mais on veut enlever le boulet du passé qui peut nous retenir. Parce que souvent, on est les... Savez, c'est... Oui, Satan est l'accusateur des frères, mais souvent, c'est qui les pires accusateurs du chrétien? C'est lui-même. Il s'accuse, il se tire un boulet parce qu'il n'accepte pas le pardon de Dieu pour lui. Ou il l'accepte, mais il ne prend pas pour lui-même. Deuxième chose pour renverser les forteresses, assumer la responsabilité de l'ensemble de notre vie. On a lu tantôt dans Pierre, nous avons tout ce qui contribue à la vie puis à la piété. Nous avons tout pleinement en lui, ça dit dans Colossiens. Alors la question, là, c'est pas de demander à Dieu ou à quelqu'un d'autre de faire quelque chose pour nous libérer, grandir. Mais la question, c'est d'accéder à cette plénitude. Parce que si on a déjà tout, c'est pas « Hey Seigneur, peux-tu me donner plus d'amour? » T'as déjà tout l'amour dont tu as besoin, il est versé par le Saint-Esprit dans ton cœur. Mais sauf que la question, c'est « Est-ce que je vais aux sources d'eau vive? Est-ce que je vais puiser? Est-ce que je vais dans ce trésor des richesses incompréhensibles de Christ? » Et donc, accéder à cette plénitude de cette grâce qui est en Jésus-Christ. Bon, la façon que Dieu a ordonné les choses, là, connaissez Philippiens. Des fois, il y a des passages de même, on se gratte la tête. Écoutez, c'est qui fait le travail? Écoutez bien ce passage-là. Tu sais, il y a ça des fois sur le salut, mais c'est aussi vrai pour la sanctification. Écoutez Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 14. « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Ça, ça ne veut pas dire de se sauver nous-mêmes, mais le salut que vous avez, mettez-le en œuvre, marchez selon ce salut-là. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, c'est moi ou bien c'est Dieu? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je pense qu'on voit là-dedans, évidemment, il y a un certain paradoxe. Puis je ne veux pas m'attarder plus que ça là-dessus, mais c'est clair qu'il y a certaines choses et c'est les plus importantes qui sont la responsabilité de Dieu. Je veux dire, c'est par sa grâce qu'on vit. Nous avons la vie par lui. C'est lui qui restaure. C'est lui, OK, qui fait le vrai travail. Mais certaines autres responsabilités sont les nôtres. Et si on veut grandir, si on veut aller à la prochaine étape de ce que Dieu a pour nous dans notre vie, il faut qu'on fasse notre part. Il faut qu'on assume notre responsabilité parce que Dieu l'ordonne. Par exemple, faire toute chose sans murmure ni hésitation, Dieu ne peut pas le faire à notre place. D'autres exemples, personne ne peut pardonner à notre place. Dieu nous pardonne pleinement. Dieu, on peut vivre à la lumière de son pardon. Mais si moi, je ne veux pas pardonner quelqu'un qui m'a offensé, Dieu me laisse avec cette responsabilité. Il ne va pas le faire à ma place. Dieu a ordonné les choses de cette manière. Aussi, choisir de croire et de s'humilier face à ce que Dieu envoie. Dieu peut envoyer toute la misère et les châtiments qui... Mais c'est nous qu'il faut qu'il réponde, comme on l'a vu un matin dans le texte. Hein. Dieu a envoyé ça, puis ça, puis ça. Il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Dieu leur a laissé le choix, puis ils n'ont pas pris le bon choix. Et oui, Dieu peut nous aider, puis Dieu, il peut vraiment disposer nos cœurs, mais au bout du compte, il ne peut pas le faire à notre place. Il a décidé de ne pas le faire à notre place. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande loi spirituelle, c'est répété à deux places dans le Nouveau Testament. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, quand on n'assume pas nos responsabilités, pour le dire autrement, c'est de l'orgueil. On n'accepte pas de s'humilier par rapport à ce que nous, on a à faire dans ce que Dieu nous montre à faire. Ça mène à la troisième façon pour renverser les forteresses, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est tout dans le verset qu'on a considéré tantôt. Toute pensée captive. Notre pensée, là, je vais vous donner une illustration, c'est un peu comme hier, Camille a pris l'avion. Mais notre pensée, c'est un peu comme une tour de contrôle où est-ce qu'il y a toutes sortes d'idées qui planent puis qui veulent atterrir dans notre cœur. Puis la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que je la laisse rentrer là, cette pensée-là? Ah, t'es bon à rien. Ah, t'as toujours été comme ça, ça vole autour. Accès, s'il vous plaît, tour de contrôle. Non. Non, mais c'est vrai, pensez-y, là, quand... Tu sais, les forteresses, on a dit, c'est des choses qu'on croit qui ne sont pas conformes à la réalité de Dieu. Et donc, on a la responsabilité de refuser, d'amener captive ses pensées, captive à l'obéissance de Christ. Et vraiment, on est dans une guerre entre la vérité et le mensonge, où toute forteresse est bâtie de mensonges qui a pris racine et qui a porté du mauvais fruit dans notre vie. Et la clé pour la renverser, c'est de mettre la lumière de la parole de Dieu par le Saint-Esprit sur ce mensonge. Et après ça, la remplacer par la vérité. Dieu va faire cette œuvre-là si on est dans la parole et que la parole demeure en nous. Et là, le Saint-Esprit se sert de ça pour nous amener de plus en plus à voir notre vie comme Dieu la voit. Et ici, quand je dis vérité, là, c'est pas juste la vérité écrite dans un livre, le verset-là que j'ai appris. C'est beaucoup plus que ça, là. Christ a dit, Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité, c'est une personne, c'est notre vie, notre victoire pour chasser Satan. On parlait d'y donner, d'avoir donné accès à Satan. C'est pas juste en apprenant un verset comme ça, c'est s'attacher à celui qui est la vérité contre le prince du mensonge, ou pour le dire autrement, c'est l'homme fort qui chasse l'intrus. Une personne qui chasse un autre. C'est pas juste une idée. Ah, Seigneur, je vais enlever cette idée-là. Non, parce que on est dans le domaine spirituel. Des fois, ces affaires-là, c'est comme on dit, ça nous habite quasiment. Tu sais, ça devient en nous, ça fait partie de notre ADN spirituel, de nos pensées. Donc, pour le dire dans les mots d'une petite fille, bien simplement, quand Satan cogne à la porte pour essayer de me troubler, je demande simplement à Jésus d'aller répondre. Des fois, ça peut paraître anodin, mais il y a quand même une vérité là. Et c'est à peu près le point que je voulais vous amener ici. Et d'où aussi l'importance de notre soeur à parler de la parole puis tout ça. Puis, la parole, c'est tellement la clé. Je sens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Et j'aimerais dire, on amène les gens, on les encourage à apprendre des versets par cœur, mais souvent je le répète, hein, la méditation de la parole, repasser ces choses dans le cœur, la bénédiction de prospérer dans nos voies. Comment ça dit ça dans ce sujet? Je ne veux pas dire n'importe quoi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Aussi le psaume 1, évidemment, qui est un éloge à ceux qui méditent la parole. Ensuite, il y a un autre point, le dernier, sur comment renverser les forteresses. Là, je vais avoir une feuille à vous donner dans un petit instant. Là, vous allez dire, ben, coudonc, c'est le titre du message. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est quoi que ça dit après? Soyez transformés afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais afin que vous discerniez. Si on veut comprendre des choses dans la vie chrétienne, il faut laisser Dieu changer nos pensées. Il y a des choses qu'on ne va jamais comprendre si on ne laisse pas Dieu nous transformer dans notre intelligence. On ne le verra pas. Tu sais, je parlais dans l'illustration, le gars qui était plein de volonté, qui voulait aider, tout ça, puis il ne voyait pas l'évident. Parce que c'est spirituellement qu'on agit, et on ne peut pas arriver à ce point-là si on ne peut pas arriver au discernement de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite si on ne laisse pas Dieu nous transformer dans notre intelligence. Et notez que la source de la transformation de l'intelligence renouvelée, c'est pas nous-mêmes, c'est Christ, c'est encore là, c'est la vie de Jésus, c'est on est une branche attachée au tronc, et lorsqu'on laisse passer la racine, la sève nourricière, on porte du fruit en toute bonne heure. Et là, on comprend des choses qu'on n'aurait jamais compris autrement. À cause de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notez aussi que, ça aussi je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter. Nous, ne sommes pas des producteurs de fruits. C'est pas nous qui produisons le fruit. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la vigne? On porte le fruit. C'est Christ qui produit le fils, c'est sa vie. Nous, on fait simplement le porter. Et c'est une erreur qu'on voit des fois dans les milieux chrétiens où est-ce que les gens font l'équivalence entre le renouvellement de l'intelligence versus porter du fruit. Je veux dire, c'est pas parce que, mettons, j'ai bien étudié la Bible, je la comprends bien, que je vais porter du fruit. Je peux avoir toute la connaissance, puis tout ça, puis être stérile. C'est la vie de Christ. C'est sûr que ça l'aide, c'est le matériau de base. Puis parce que Jésus a dit, hein, que ces paroles demeurent en nous, puis c'est la méditation comme tout ce que je viens de dire, mais c'est pas ça le fruit en tant que tel. Le fruit, c'est la vie de Dieu qui va prendre tout ça, puis qui va couler à travers la vie de celui qui médite la parole, qui la garde dans son cœur. Ceci dit, j'ai besoin de deux braves volontaires, parce que c'est un métier très dangereux qu'être le passeur. Passeur de feuilles pendant le message. C'est une petite feuille.
C'est quoi ça? Je vais t'en donner une. Tu veux savoir pourquoi on ne le fait pas?
Ben justement, quand on passe une feuille, les gens n'écoutent plus tant que ça si attentivement. Fait que je vous donne juste des petites instructions. Cette feuille-là, là, c'est une bonne feuille à garder dans votre Bible. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche en gros, mais c'est une ressource. OK? C'est pas la source, c'est une ressource. OK? Dieu est la source, là, je vais vous l'expliquer dans un instant, mais on va pas la regarder en détail. Mais ça résume un peu ce qu'on a vu, puis ça l'amène d'une manière où est-ce qu'on peut s'identifier à ça. Donc, cette feuille que je viens de vous distribuer, renverser les renversements, puis s'il en reste, je me le donnerai, parce qu'il y en a qui la veulent plus tard, je pourrais en donner, je suis né de surplus, sinon j'en imprimerai d'autres. L'idée, là, c'est pour nous aider à nous libérer des entraves du mensonge qui bloquent la vie, la vérité de la racine nourricière. Merci. OK? C'est un outil, OK? C'est un outil qui nous aide à pouvoir porter du fruit. Donc, comme je disais là, n'utilisez pas ça comme une espèce de formule magique, là. Hey, là, j'ai ça, là, puis là, j'ai l'outil pour avoir la... Non. Comme je l'ai dit, la ressource ne remplacera jamais la source de vie. Elle nous aide à accéder à la source. C'est ça l'idée. Notre Père, chez lequel il n'y a aucune... Toute grâce excellente, toute grâce, tout nom excellent, descend du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et donc, il ne fallait pas traiter ça là, comme « Ah là, j'ai fait ma liste, puis là, je suis tout correct, puis je vais pouvoir passer ma journée. » En fait, stressez-vous pas si vous passez une journée, puis vous ne l'avez pas faite. L'idée, c'est pour vous aider à accéder à cette victoire pour renverser des forteresses. Je vous laisse le lire plus en détail tranquillement chez vous, mais éliminer le mensonge auquel vous avez cru, là. L'idée ici, c'est au lieu de justement, tu sais, quand je disais tantôt, ah, j'ai tout le temps été de même, je me sens comme ça, puis tout ça, OK? C'est arriver devant Dieu, puis dire, OK, c'est quoi qui m'empêche de grandir? Puis là, c'est d'être vrai avec Dieu, puis dire à Dieu qu'est-ce que ça l'a fait dans notre vie. Tu sais, c'est pour ça que c'est dans notre temps personnel avec Dieu. Donc, trouver c'est quoi, puis comme je disais tantôt, là, sonde-moi au Dieu, Seigneur, aide-moi à voir c'est quoi le problème. Une fois que Dieu nous montre, OK, on peut parler de ça avec Dieu sur ce que les ravages que ça a pu faire, puis comment on a besoin de lui. Puis ensuite, trouvez autant de versets bibliques que vous pouvez qui disent ce qui est vrai, puis écrivez-les. Autrement dit, contrecarrez ce mensonge-là avec la vérité de la parole. C'est un bon exercice de dire j'ai lu ma Bible un matin. Non, ça m'aide à chercher les Écritures, les sonder pour trouver en elles la vie. OK? Puis là, bon, on rédige une déclaration, là. C'est pas, c'est pas une formule, mais l'idée, là, c'est comme, devant Dieu, des fois, c'est bon d'être solennel, puis dire comme, puis là, tu sais, c'est ça, là, c'est pas obligé d'être mot pour mot, mais je renonce au mensonge que je suis bon à rien, et j'annonce la vérité que je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais non, OK? Ou, tu sais, il y a une autre formule alternative ici qui est donnée là, mais vous comprenez l'idée. Puis l'idée ici, c'est d'avoir un suivi là-dessus. Autrement dit, c'est d'apprendre à pas juste être négligent puis un peu à la voix comme je te pousse par rapport à ce qui peut nous rendre esclaves, à ce que dans notre vie nous empêche de connaître Dieu, mais de s'arrêter avec les Écritures de façon consciente pour dire « OK, je veux considérer ces choses à la lumière de la parole de Dieu, puis Dieu, je veux m'arrêter devant toi, que toi tu mettes la lumière comme on a vu ce matin, puis avec ça, avancer avec ta direction. » C'est à peu près ça. S'il y a des questions, vous viendrez me voir après, mais je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus. Comme je l'ai dit, c'est une ressource qui peut nous aider. Mais c'est vraiment pour nous aider à chercher le Seigneur. OK? Hey, je vous lis deux versets là-dessus, parce que ça met les choses en perspective. Quand je dis, c'est pas une formule magique, tout ça, approchez ça avec la pensée qui est exprimée dans ces deux psaumes. Psaume 27,4. Je demande une chose à l'Éternel, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Si c'est votre désir, là, puis que Dieu veut se servir de cet outil-là, c'est de quoi il va le bénir. Un autre aussi dans Psaume 63,2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Si on approche ça de cette manière-là, je pense qu'on ne va pas se tromper. Je conclue avec cette pensée, un peu dans le même sens, connaissez Philippiens 3? Paul, Philippiens 3, il y a vraiment du bon stock là-dedans. Paul qui parle aux Philippiens, qui dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Pas pire ça, tu sais, une chose là, c'est-à-dire, tu perds pas à aller à gauche, pas à droite. Paul il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits ou matures, ayons donc cette même pensée, la pensée de Christ. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Si on a l'impression que on a tout à faire devant nous, puis que on est devant une montagne infranchissable, probablement qu'on va se décourager, puis qu'on fera même pas le premier pas, parce qu'on va se dire que c'est pas faisable. Mais si on se met simplement en position, puis d'ailleurs, c'est, on a vu ça, hein, ces débuts irréalistes, ça mène à quoi, vous rappelez-vous? La dépression. Hein, on a vu ça, les buts changés, puis ça. Les buts irréalistes, ça amène, non, les buts impossibles. Ou irréalistes, c'est ça. Mais si on a un but, une vision à long terme qui nous permet de voir les choses étape par étape, pour quand je l'avais amené, bouchée par bouchée, je veux dire, on a mangé à midi, là, on n'a pas essayé de prendre l'assiette et la gober d'un coup, là. On va tranquillement, bouchée par bouchée. Bien, c'est comme ça aussi avec le Seigneur, il faut y aller bouchée par bouchée. Puis, comme le Seigneur est patient avec nous, il faut qu'on soit patient aussi avec nous-mêmes. Donc, ou je l'avais dit aussi, comme avec un café, oui?
Ah, mais attends, on va montrer la voiture grise en question.
Ah, c'est probablement toi, Geneviève. Ben, il y a deux voitures grises. Ah, puis, ou toi, ben, j'ai pas laquelle qui est... Ah, parce que t'es dans la poubelle. Non, je peux pas. Les deux, venez vous parquer dans le stationnement. Il y a de la place. Un coup, ça va aller. Oh man. Au moins j'étais vers la fin. Ça. Allez, là, j'étais rendu où moi là? Ben, j'avais pas mal fini. C'est quoi je disais donc? Ah oui, le boucher une petite à la fois. Ah, puis l'eau. Rappelez-vous dans le café. Si mon café est trop fort, comment je fais pour le décaféiner? Je mets tout le temps un peu plus d'eau. Ok, je suis tout mêlé dans ma pensée. J'ai tellement cru à des mensonges dans ma vie. Dilue-le avec l'eau pure de la parole, petit à petit. Puis sais-tu quoi? De plus en plus, ça va être dilué par ma vie. Ben, au ciel, ça va être de l'eau pure et parfaite. Mais c'est ça, nos pensées sont confuses à cause qu'on est dans un monde confus. Et donc, j'avais un autre point, je vous excuse, j'étais un petit peu mêlé parce que ça m'a un peu déflaboxé cette affaire-là, mais chacun d'entre nous, on peut avoir la certitude qu'absolument rien peut nous empêcher de devenir tout ce que Dieu nous a sauvés pour... Attends, nous a... devenir tout ce que Dieu nous a sauvés pour devenir... Hey, comprenez ce que je veux dire? Tu sais, Dieu veut qu'on devienne quelque chose. En nous sauvant, il voulait qu'on devienne quelque chose. Bon. On a tout ce que ça prend parce qu'on a tout pleinement à lui. Notre part, là, c'est de nous humilier et de croire qu'on peut utiliser par la foi les armes que Dieu a mis à notre disposition. C'est pas des armes charnelles, elles sont puissantes en Dieu pour... renverser les forteresses. C'est la parole de Dieu, là. C'est pas des gamiques, puis des trucs, puis une espèce de séminaire de... Ouh, comment on appelle ça? Pep talk ou tout ça. Non, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Elle dit, les armes avec lesquelles on combat, la prière, la parole, la méditation, toutes ces choses-là, elles renversent les forteresses. Elles donnent la victoire. Donc, voici comment je termine. Allons simplement à Dieu avec ça, tel qu'on est. Là, on est rendu. Puis on a déjà parlé de ça. Pas comment le Seigneur va diriger, mais je vais prier, puis après ça va.